Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Transgresser les barrières financières, sociales, culturelles que les hommes prennent tant de soin à dresser. Aller au-delà du paraître pour exister vraiment. Aller au-delà de l'apparence pour voir qui est vraiment l'autre. Abolir un sentiment prégnant de solitude et d'angoisse en aimant à perdre la raison. Et quand la raison revient, se demander ce qui prime, soi ou ceux pour qui on a vécu et qui nous attendent. Voici de multiples interrogations dans ce roman dense et profond intitulé « Repose-toi sur moi » édité chez Flammarion. Et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Serge Joncourt. Serge Joncourt, bonjour.
Bonjour.
Alors voici la rencontre improbable de deux êtres, Ludovic et Aurore, totalement différents. J'ai pensé au film de Jean-Pierre Bacri et d'Agnès Jaoui, Le goût des autres. Il y a un côté un peu comme ça.
Ah, très probablement. Enfin, il y a une humanité.
Au départ, enfin, oui. Puis la rencontre de deux individus.
Oui, c'est vrai, mais ça, c'est une situation de vie, on pourrait dire, courante. Hein.
Oui, sans doute. Mais là, absolument tout les sépare, vos personnages, vos deux personnages.
Oui, alors déjà, enfin, tout les sépare, si ce n'est qu'ils sont voisins. Voilà. Ils habitent dans le même immeuble. Ça, c'est quand même.
Séparés par une cour, ce qui n'est pas rien. On en parlera de cette cour.
Tout à fait, oui. Et pour le reste. Aurore est parisienne, elle...
Citadine, très citadine.
Citadine, c'est une femme qui travaille dans la mode, donc c'est un métier, on ne peut plus parisien, hein, parce que c'est vrai que Paris est un peu, même une capitale mondiale de la mode, on le pourrait dire, hein, c'est une sorte de vitrine comme ça. Et, alors que Ludovic, lui, vient de la vallée du Célé, c'est un ancien agriculteur.
Mais Vallée du Célé dans le Lot, je dis pour ceux qui écouteront l'émission ailleurs, et c'est un ancien agriculteur et il a un métier dur, difficile.
Ah oui, c'est un métier, il est recouvreur de dettes, donc c'est un métier...
Qui le met en contact non plus du tout avec les gens de la mode.
Ah non, lui il est loin de la mode.
Oui.
Non, lui il va récupérer des sommes parfois dérisoires. Chez des gens, on dit des petites gens, mais enfin bon, les dettes, ça nous concerne tous.
Oui, les gens qui sont quand même en situation difficile, disons.
Il y a parfois des situations, oui, de vie. Alors, bon, ça permet en même temps d'explorer un peu en suivant Ludovic, parce que dans le roman, on le suit.
Bien sûr.
Faire ses visites domiciliaires, comme on dit. Et la première scène du roman, d'ailleurs, c'est ça. Il arrive comme ça dans un pavillon de banlieue, chez une... Il ne sait pas bien chez qui il va, hein. Il a le nom et l'adresse. Et il tombe là chez une femme âgée qui... Bon, bah, il se trouve que voilà, elle doit 600 euros au bijoutier de Livry-Gargan. Bon, 600 euros, évidemment, ce n'est pas grand-chose, mais quand même, ce bijoutier, il est confronté à plusieurs impayés. Donc,
certains mettent la clé sur la porte. Je ne parle pas des bijoutiers forcément, mais à cause des impayés, justement.
Bien évidemment, oui, tout à fait. Ouais. Donc, bon, bah, y a un moment, ça devient un peu vital et... Et alors Ludovic, eh ben voilà comment il fait. Alors j'en ai fait un personnage un peu solide, un peu physiquement un peu costaud, mais ça sert à rien de faire 110 kilos face à une pauvre dame qui n'en peut plus mais et qui petit à petit va essayer de la convaincre de faire au moins une série de chèques, un échéancier quoi pour rembourser. Et puis bon, ça il le fait avec humanité, avec psychologie.
Tout à fait. Oui. Voilà, on découvre chez lui un grand psychologue. Mais pour en revenir à leurs différences, on sait qu'à un moment donné, ces différences seront plus ou moins abolies. Mais bon, effectivement, Aurore a une vie quand même très aisée, une vie matérielle très très aisée. Et lui a une vie beaucoup plus difficile, il me semble, non?
Alors, lui, c'est un petit salaire, hein, voilà
c'est à, ça, Paris.
Si c'est à Paris, oui. C'est-à-dire que là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, il est dans cette partie de l'immeuble qui n'est pas rénovée, c'est pour ça qu'il, par son patron, il a eu une sorte de combine, alors il paye pas très cher, mais pour le coup, il est au fin fond de l'escalier C, de l'autre côté de la cour, et alors qu'Aurore, elle habite l'escalier
la partie A, noble.
Qui donne sur la rue. Qui a été rénové, comme c'est le cas à Paris, mais il n'y a pas qu'à Paris, hein, en ville, dans les grandes villes en général, il y a des centres-villes. Quand ils sont rénovés, c'est souvent, d'ailleurs, c'est souvent là que les bâtiments sont les plus jolis en centre-ville. C'est
Et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle les chartreuses qui sont moins jolies.
Oui, alors, il y a donc d'une certaine façon deux mondes.
Ouais.
Puisque où l'escalier c'est où est Ludovic, il y a aussi des 3-4 voisines qui sont là depuis 40 ans, voire plus, et qui se contentent de ce qu'on appelait les loyers de 48 avant. Quoi, voilà.
Ouais, c'est ça. Alors, Ludovic est conscient de ne pas appartenir au même monde qu'Aurore, mais c'est un sage, moi je le vois comme ça.
Hein. Oui.
Aurore, honnêtement, j'ai trouvé que c'était une sacrée snobinette au départ. Je la trouve de plus en plus attachante au fil du livre. Mais au départ, bon, elle paraît très égocentrée, elle est vite méprisante, vite fuyante. Je sens que vous allez défendre votre personnage.
Non, mais parce que c'est une femme qui est...
Qui est mal.
Déjà, elle est chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle a cette petite société de mode, il y a 6 employés. C'est en soi une responsabilité. Surtout quand ça commence à se passer pas trop bien avec son associé. Bon. En plus, à partir du moment où elle a fermé la porte du bureau, il faut qu'elle court faire les courses pour nourrir sa famille. 2 enfants, plus le beau-fils, enfin le fils de son mari.
Vous voulez dire qu'elle a plusieurs casquettes, en fait.
Et à tout moment, elle doit répondre à toutes ses demandes, ses sollicitations, elle doit être sur le pont.
C'est rare que les hommes se rendent compte de ça. J'ai rarement trouvé dans un roman un homme qui se penche sur les multitâches des femmes qui travaillent.
Absolument, parce que ça me semble quand même... C'est une triple mission, quoi. C'est pour ça qu'à un moment, elle se dit, mais bon sang, à tous, je suis là en permanence, je leur donne, même les enfants. Je leur donne. Et qu'est-ce qu'ils me donnent en retour? Ils ne s'en rendent même pas compte. Non, ouais. Mais il y a un moment, tout ça, depuis des années, elle le fait. Et ça ne lui apparaissait pas, ou du moins, ça lui a semblé normal. Et mais à un moment, ça se dérègle.
Ça se dérègle, mais en même temps, je reviens à ça. Je me suis dit, mais quand même, avec cet homme qui... alors, effectivement, il paraît... Il est imposant, il est peut-être pas bien habillé comme elle souhaiterait qu'il soit mieux habillé. Enfin, j'en sais rien. Mais je trouve qu'elle n'est... Elle est peu sympathique. Elle est peu... un sourire, une politesse, ça existe. Et je trouve... Alors, vous me dites, elle est énervée, elle est fatiguée, elle est au bord du burn-out, comme on dit maintenant. C'est vrai. Mais en même temps, je me suis dit, c'est vrai que dans le fond, l'accueil, la tolérance, l'intérêt, ou même simplement un regard, ça ne concerne pas que les immigrés. Ça concerne également les gens, on le dit. Il faut y penser à ça.
Mais à tout moment, c'est pour ça qu'une certaine façon, elle est un peu... Paris, c'est une ville un peu hostile, un peu égocentrée, un peu quand même. Hein. Et puis, c'est une ville
avec des clivages.
Harassante. C'est une ville, oui, clivée. Alors là, il y a des quartiers, des compartiments. C'est une ville qui est dure et elle est un peu dans cette dureté-là. Maintenant, elle a quand même sa conscience, on peut dire, pour elle, puisque dans cette entreprise qui fabrique des vêtements. Donc, si elle y a une chose dont elle est sûre et une chose dont elle veut pas, c'est de faire fabriquer ses vêtements. Comme le font beaucoup.
À l'étranger. Sri Lanka,
Au Bangladesh. En Bulgarie, pourquoi pas. C'est-à-dire, d'une certaine façon, ce qu'elle ne veut pas, c'est que ces robes, ces modèles auxquels elle pense, qu'elle dessine, elle ne veut pas qu'à un moment, ce soit fabriqué par des gamines de 16 ans. Ça n'est pas possible. Donc c'est.
Il y a une éthique, quand même, chez elle.
Il y a une éthique, une morale, et à partir de là, ça va poser des problèmes avec ses associés. Puisque eux n'ont pas du tout la même logique. Ce qu'ils veulent, c'est fabriquer au coût le plus bas possible, même des produits de qualité, donc il faut délocaliser. Et quand on perce un peu, quand on approche un peu Aurore, on se rend compte de ça, déjà.
Oui. Et elle dit à un moment donné, elle sentait bien que tout en elle était fragile. Sa société, ses jumeaux, son couple. Elle a plus confiance en elle, elle a l'impression que tout lui échappe, elle a peur. La peur, hein, vous dites le mot peur. Mais avant, je me suis dit qu'il y avait aussi un grand sentiment de solitude. Et je me suis dit que dans les villes, finalement, la solitude, elle existait très fortement.
Tout à fait, c'est une solitude. Aurore, c'est une solitude entourée. C'est-à-dire qu'elle a une vie bien réglée. Elle a beaucoup de choses à faire, mais pour autant, elle se sent seule quelque part. Il y a un moment où il y a une forme de solitude, y compris au milieu des autres. Et Ludovic, c'est une solitude, lui...
Une vraie solitude.
Plus assumée, on dirait.
Mais Aurore...
C'est un solitaire.
Oui, Aurore, elle a un mari qui est toujours branché, je dirais, en permanence. Il est toujours avec son portable. On le voit, ça. On le voit dans la vie.
Écoutez, on le voit de plus en plus. Moi, je...
Mais même dans la vie familiale, hein.
Mais bien évidemment, moi, je suis toujours un peu gêné par deux ados à côté qui sont là, qui, en même temps, regardent leur téléphone et ont des écouteurs... dans les oreilles, en écoutant telle musique, on ne sait plus à quel moment, à quel degré ils sont là vraiment. Enfin, c'est
et
quand
on ne
même...
sait plus si on existe à leurs yeux.
Et on ne sait plus, d'une certaine façon, on est moins important que ce qu'ils écoutent en même temps qu'ils nous parlent. Enfin bon, ça c'est quand même... C'est une sorte de... Moi je trouve ça très blessant. Hein. Et alors lui, le mari d'Aurore, donc il est...
C'est un battant, un gagnant.
C'est un type qui réussit, voilà. C'est-à-dire que ça fait aussi partie de la société.
L'arrogance tranquille des ingénieurs américains et la décontraction anglo-saxonne, c'est tout à fait ça. Sympathique, hein. Mais...
Sympathique, oui. C'est-à-dire que c'est de ces êtres qui ont l'air de survoler les choses comme ça.
Tout leur réussit, apparemment.
Tout leur réussit, d'une certaine façon. Ils sont d'une énergie constante, toujours plus ou moins dans leur business. Et effectivement, c'est pour ça qu'il a... bien souvent cette oreillette dans les cheveux qui fait que par moment Aurore ne sait plus s'il parle tout seul ou s'il parle à quelqu'un à Singapour, à New York, à Chicago. Enfin bon, c'est une forme de présence. Du coup, son mari, il est là. Mais quand
il n'est pas là.
Et en même temps, il n'est pas là. Et souvent, il est parti parce qu'il voyage. Donc,
ouais, exactement.
Quel est son degré de présence, hein? Ça, c'est quand même la présence. Moi, je suis fasciné par ce terme, la présence. Alors ça, c'est...
Ah ben, vous êtes sur Radio Présence.
Mais justement, oui. c'est inexplicable, la présence. Il y a des êtres qui en ont, visiblement. Il y en a qui sont là, mais qui sont complètement ailleurs. Enfin, ça, c'est quelque chose d'assez énigmatique, quoi.
Vous le dites à un moment donné, il y en a qui... Le fait d'être écouté.
Ça me semble fondamental. C'est un peu le projet de mon roman. Et c'est un peu ce titre. Pourquoi ce titre ? Repose-toi sur moi. C'est un peu ça que je voulais dire, cette sensation d'être écouté, d'être entendu, elle est quand même pas si courante parce que chacun est dans ses problématiques, dans sa vie, chacun a besoin d'aide, il faut bien le dire. Enfin bon, tout le monde n'est pas fort, tout le monde n'est pas serein. Et...
Mais vous voulez dire en fait que, enfin si je vous comprends bien et je vous rejoindrai, peut-être qu'il y a quand même un peu trop d'égoïsme aussi.
C'est un égoïsme et c'est aussi le fait de devoir être le combattant de sa propre existence à tout moment, et qu'il y en a qui ont du mal. Ben voilà,
et puis il y a des métiers où on leur met une telle pression qu'ils ne peuvent plus émerger non plus, donc ils vont pas s'occuper des autres.
Oui, c'est pour ça que je voulais faire d'Aurore une chef d'entreprise, parce que pour montrer que c'était pas simplement la caissière du supermarché qui avait la pression.
Oui, et que même les chefs d'entreprise peuvent être malheureux.
Le petit patron, hein, voilà comment on dit, le PME... Eh bien, il faut avoir le dos solide, et elle l'a pas toujours. Et parfois, elle fait semblant, parfois, elle fait mine d'eux. Et donc, ça, elle peut pas vraiment en parler, parce que si elle s'ouvre sur ses failles, c'est le danger, ça. Quand on s'ouvre aux autres sur ses faiblesses, on prête le flanc.
Oui, on prête le flanc, exactement. Mais pourtant, alors pour moi, Ludovic ne veut pas montrer, ou ne peut pas montrer ses faiblesses. Il a un corps massif, mais... On sent une grande sensibilité. Vous le rendez, en fait, enfin, moi, je le trouve très sympathique. Il donne une impression de puissance, peut-être qu'elle est fausse, voire de brutalité. À un moment donné, vous parlez du rugby dans lequel il y fonçait. C'est un gars du Sud-Ouest. Hein. Mais finalement, c'est un peu ce que l'on demande aux hommes souvent, et ce que demandaient peut-être les mères davantage encore autrefois. Un garçon ne pleure pas, un garçon doit être fort.
Oui, il y a aussi qu'il l'est probablement un peu. Enfin, Ludovic, c'est pour moi...
Il a un équilibre.
C'est un mec bien. C'est un peu l'enjeu aussi là, du roman, c'est de faire le portrait d'un mec bien. C'est pas
sur qui on peut se reposer.
C'est en tout cas l'impression qu'il donne. Et sincèrement, il est d'ailleurs, on le voit au travers de petites scénettes qui sont presque anecdotiques, mais enfin qui disent beaucoup quand il va aider sa voisine à récupérer ses deux chats qui se sont sauvés ou... Comme il est un peu bricoleur, il a une boîte à outils, alors chez l'un, chez l'autre.
Oui.
C'est pas grand-chose, mais mine de rien, ça dépanne.
Oui, sans esbrouf. Hein. Ouais.
Sans esbrouf, d'une façon un peu naturelle, comme je le vois faire, moi, autour de moi, plus facilement dans le Lot, c'est vrai, parce que bon, à Paris, il n'y en a pas beaucoup qui ont des trousses à outils. Il y en a peut-être de moins en moins qui ont une boîte à outils. Hein.
Et oui, c'est vrai que lui paraît plus attentif aux autres. Mais peut-être qu'il a plus de temps, finalement. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'épouse, puisqu'il est veuf. Et il paraît, il devine la misère, mais ça, c'est son métier aussi, mais sans doute sa psychologie. Il est psychologue. Il devine la misère, la panique, la manipulation aussi, parfois. Et il a deviné Aurore. Et ça, ce qui paraissait pas évident, parce que c'est certainement une jolie femme, très élégante certainement, un peu distante, il a deviné la fragilité chez elle.
Surtout ce qu'il a senti, c'est que cette femme, parce qu'il faut, un des points de départ, ce sont ces corbeaux qui sont dans la cour.
Alors, merci, hein. On allait en parler de ces corbeaux, parce que je me suis dit, mais ça pour moi, je ne veux pas faire de la psychologie sauvage, mais pour moi c'est symbolique. Les corbeaux qui ont fait partir les tourterelles, c'est quand même, ces prédateurs, c'est vraiment symbolique. C'est-à-dire que le monde est dur, même pour les tourterelles.
Il y a une lutte des territoires.
Ouais, partout.
Partout, et y compris dans Paris où... Effectivement, il y a de moins en moins de moineaux, il y a de plus en plus de corbeaux, de goélands, des oiseaux un peu massifs comme ça qui virent les autres. C'est ce qui s'est passé dans cette cour où, effectivement, avant, il y avait des pigeons ramiers qui chantent un peu comme les tourterelles. Et puis les corbeaux sont arrivés, ils sont installés là et Aurore, sans avoir précisément peur des oiseaux, quoi. On peut avoir peur des oiseaux.
Elle a une phobie, oui.
Elle a une forme de phobie en particulier. À l'égard de ces oiseaux noirs qui ont un cri absolument atroce quand elle, le soir comme ça, quand elle pousse la porte cochère, et ça devient presque une forme de hantise. Elle a presque peur de rentrer chez elle maintenant.
Oui.
Et ça, si elle en parle autour d'elle, on le considère pas. C'est pas important. Enfin, franchement, tu vas pas prendre la vie pour des oiseaux.
Et justement, ça, c'est très intéressant parce que chez elle, on voit tout d'un coup apparaître de l'irrationnel dans une vie qui paraît rationnelle, finalement. C'est vrai qu'elle essaie de tout faire marcher en même temps, mais cette peur des oiseaux, ça collerait pas. Et finalement, on en est tous là. Hein. Il y a toujours des petits points par où on peut voir.
Il y a un moment dans la vie quand ça se passe moins bien, tout fait sens. On se dit tiens, il fait mauvais, c'est parce que ça va pas bien. Enfin bon, et ces oiseaux qui débarquent à ce moment-là dans sa vie, c'est comme une forme de signe du destin.
Ça va être un signe plutôt favorable. Mais parlez-moi de la cour, parce que moi j'ai trouvé que cette cour aussi pour moi, c'était la place du village où on peut rencontrer.
Oui, les cours c'était un peu fait pour ça.
Oui.
Alors, c'est...
On y fait des repas maintenant d'immeubles.
Voilà, donc on essaye, enfin il y en a qui essayent, à travers la fête des voisins, des choses comme ça, de rendre à nouveau un côté humain et social à cet endroit, alors que c'est quand même difficile, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à Paris, et dans cet immeuble, il y a beaucoup de locations à la semaine ou à la nuit, les Airbnb, des choses comme ça. Ouais. Ce qui fait que c'est pas possible de nouer le contact avec des gens qui sont là deux jours et qui repartent et qui vont aller à l'autre bout du monde. Donc cette cour, finalement, il n'y a que Ludovic et Aurore qui la fréquentent, qui s'y croisent.
Et alors, cette cour, je trouve que là aussi, au milieu d'immeubles, c'est un lieu un peu sauvage, un peu mystérieux, libre, hors des conventions, finalement. Un peu sauvage.
Oui, c'est une cour un peu comme celle que je vois devant moi. Il y a des arbres, il y a des petits massifs, il y a des buissons comme ça. Donc, ça a une vraie petite nature, quoi. Il y a une sorte d'îlot comme ça, de verdure, qui est, alors soit la façon dont il est pas entretenu le rend comme ça, sauvage et presque insulaire. C'est une sorte de, et des endroits comme ça. Il y en a dans les cours quand on pousse Moi, j'ai parfois la curiosité
de pousser des portes cochères.
Ouais. Et parfois, il y a des petits univers comme ça.
Exactement.
Et c'est toujours assez fascinant, ça.
Alors, justement, en début d'ouvrage, vous parlez de la ville, à plusieurs reprises d'ailleurs, le poids de la ville. Alors, je pense que c'est le poids de Paris, encore plus que de toutes les villes, mais enfin, je pense qu'on peut trouver dans les grandes villes de province la même impression. Et là, quand elle marche, elle est toute seule, par exemple. Elle revient du supermarché, la supérette, et elle est toute seule, elle s'enfonce dans les petites rues, il y a de moins en moins de monde, de voitures, de boutiques, bientôt elle n'entend plus que le bruit de ses talons sur le trottoir. Parfois, elle a le sentiment de se résumer qu'à elle. Et puis, lui qui vient de la campagne, et pour lui, il dit... À force de vadrouiller comme ça, le soir, il est saturé d'avenues et d'immeubles, de pavillons et de carrefours, si bien qu'il a besoin de rejoindre la Seine pour revenir dans son périmètre, à son point d'ancrage. Parce que lui, c'est un homme de la terre, ça lui manque.
Il est habitué à avoir de l'espace.
Autour
de lui, hein, parce qu'il travaillait la terre. Donc là, ils sont dans une situation qui, il la découvre un peu et nous, derrière ses pas, parce que en ville, on s'en rend pas compte, mais en permanence, on marche sur un trottoir, on croise des gens qui arrivent en face. Et à tout moment, inconsciemment, on anticipe les trajectoires de l'un qui vient vers moi, tiens, avec un sac, l'autre avec un chien, tiens, lui à vélo sur le trottoir. Bon. On se fait un petit pas de côté, et tout ça, c'est une sorte de gymnastique inconsciente qui est en fait très probablement épuisante et en tout cas irritante. Et lui, ça, il le découvre parce que il est à Paris depuis 2 ans seulement. Donc, il y a des moments où il a du mal avec ça. Et il sent bien qu'il y en a qui font ça peut-être baisser avec, encore une fois, les écouteurs sur les oreilles. Enfin bon, il y a une forme d'agressivité un peu permanente, constante. Et c'est vrai de Paris, mais c'est vrai de toutes les villes, finalement, toutes les grandes villes, les centres-villes. Il y a un moment où, sans parler des métros, alors là, ça c'est un peu parisien, là, les heures d'affluence dans les métros, où ces flots de voyageurs qui s'engouffrent là avec d'autres qui arrivent en sens contraire. Enfin bon, tout ça c'est d'une violence contenue avec laquelle il a du mal.
Serge Joncour, on fait une courte pause musicale et nous reprenons tout de suite après et nous parlons d'Aurore et de Ludovic.
Like a rainbow,
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Serge Joncourt et nous parlons de son nouveau roman édité chez Flammarion, Repose-toi sur moi. Oui, se reposer sur Ludovic. Il a un physique impressionnant, solide, qui rassure. Et à un moment donné, d'ailleurs, depuis 46 ans, on le voit comme un gars solide, celui que rien n'atteint, alors qu'en réalité, il se sent complètement écrasé par cette ville. On parlait de la ville, mais il se sent écrasé. Il se sent pas toujours solide. C'est un homme, en fait, voilà, avec ses fragilités.
Oui, c'est, disons qu'il n'est pas armé vraiment pour la ville. Et puis, il a un métier qui le confronte d'une façon quotidienne à des gens qui sont dans la difficulté, à des locataires qui ne payent plus leur loyer. Enfin, bon, à chaque fois, il essaie de ménager la chèvre et le chou, enfin, il essaie d'apaiser la situation, de la résoudre en tout cas. Mmh. Et tout ça, mine de rien, ça. Et puis après, il y a sa situation personnelle. S'il a quitté la ferme, c'est qu'il l'a laissé à sa sœur, hein, d'une certaine façon.
Donc, oui, c'est un peu sacrifié, en fait. En même temps, il est veuf, il a perdu une compagne.
Voilà, sa femme qui travaillait dans un domaine viticole et qui serait morte. Certains produits, probablement, on ne sait pas bien. Enfin bon, tout ça, un cancer en tout cas. Donc, quand il tourne le dos à cette ferme, à cette vie d'avant, pour retourner sur Paris, il y a toujours quand même une douleur. Et puis c'est comme une terre qui lui manque. C'est pour ça qu'il y retourne tous les deux mois à peu près, pour voir un peu où ça en est.
Besoin de s'oxygéner. Besoin d'une autre forme de solitude, mais une solitude positive, là.
Oui, tout simplement, déjà, de retrouver ce territoire un peu naturel, et puis de voir où sont ses parents. Et puis sa sœur, comment ils s'en sortent, comment... En même temps, il ne leur met pas la pression, hein, mais enfin, ce domaine, c'était un peu le sien. Donc,
mais comme vous dites, c'est un chic type.
C'est un chic type de ce point de vue-là. Il me semble qu'il a la délicatesse de ne pas être pesant,
ouais.
De ne pas trop faire de remarques au beau-frère qui...
Pourtant, qui fait des sottises, enfin, qui n'en fait pas.
Qui fait à sa façon, quoi, en tout cas. Ouais. Et ça, c'est ça. On est toujours un peu gêné quand les autres font. Alors, il faut de la grandeur d'esprit pour respecter la façon de faire des autres. Ça. Donc, il a ça quand même.
Tout à fait.
Et puis, il s'occupe de sa mère parce que sa mère, elle veut plus sortir, sa mère, sinon avec lui.
Elle perd un peu la tête,
elle veut plus marcher. Il n'y a qu'avec son fils qu'elle veut faire un grand tour comme ça pendant 2 heures. Donc, évidemment, en plus, il est solide, ce fils. À un moment, elle pense même que c'est pour ça qu'elle l'a fait solide, ce fils, pour qu'un jour, il puisse la porter et puis faire un grand tour du côté de la rivière, passer le pont et puis revenir. Alors que quand il n'est pas là, ben finalement, elle reste
dans près de la cheminée.
Cette salle à manger, à regarder passer les heures.
Et le père, qui, dans le fond, pour lui, ce qui importe, c'est que la ferme continue à fonctionner.
Cette ferme est dans la famille depuis des générations. Oui, il faut sauver le navire.
Que ce soit le fils ou le gendre, peu importe.
Oui, parce que le fils, il est solide, donc on se dit qu'il s'en sortira toujours.
Oui.
Il faut qu'elle tienne, cette ferme. Et puis, ça c'est...
Oui, donc il a cet ancrage, lui, dans la nature. elle qui parle de la ville, elle adore la ville, elle le dit à un moment donné. Ils ont ces côtés très différents. Ils se retrouvent dans cette cour et là, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, un besoin irrépressible de se rencontrer, c'est-à-dire de se toucher, de se sentir. Et faisant fi des obstacles, enfin, il y a une attirance physique impulsive. Et petit à petit, on va voir, on pense évidemment à la chanson de Brassens. Moi, j'ai pensé, il va apprivoiser cette femme qui est quand même très distante. Moi, je maintiens qu'elle paraît très snob au départ. Et il va l'apprivoiser. Et elle va trouver tout d'un coup, elle va trouver peu à peu qu'il est efficace, qu'il est rassurant. Et qu'elle a trouvé quelqu'un pour qui elle existe.
Mais déjà, il est là. Il est présent. Et ça, encore une fois, on y revient.
Puis, ouais, toujours la présence, oui.
Et puis de l'autre côté de la cour. Alors, bon, c'est en plus une situation un peu singulière, ça, de rencontrer quelqu'un, de faire une rencontre, parce que c'est quand même un roman sur une rencontre. Mmh. Et parfois, la rencontre, on la fait juste là, en face, dans l'immeuble d'en face. Et ça, c'est quand même, c'est à la fois rassurant et ça peut être aussi très angoissant. Parce
oui, très délicat,
se
oui.
Se dire aussi. Bon sang, mais oui, tiens, j'ai rencontré cet homme, d'accord, mais alors, qui est-il vraiment? Parce qu'au début d'une rencontre, on est un peu méfiant, on est emballé, mais il y a quand même une méfiance. Il habite là, en plus, en face. Et, oui. Est-ce que c'est pas imprudent? Enfin bon. Un jeu d'aller-retour comme ça. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que les personnages nous ouvrent à nous, lecteurs, leur état d'âme et leur.
Oui, en alternance, hein, vous faites parler vos personnages, ces deux personnages. Alors, on s'est dit qu'elle, dans le fond, dans cette histoire, elle a tout à perdre. C'est dangereux pour elle.
C'est sûr qu'elle prend un risque. Mmh. Elle prend un risque de déstabiliser sa famille, de. Elle a malgré tout rencontré un homme, donc qui en plus est juste là, pourrait les croiser, les voir. Enfin bon, c'est un danger qui en même temps devient un peu savoureux parce qu'elle trouve malgré tout cette forme de réconfort dans cette présence de cet homme, de cet inconnu qui devient un peu proche finalement petit à petit parce que elle sent bien qu'il est pas mauvais, que c'est, et puis petit à petit elle va s'ouvrir davantage sur ses propres difficultés, sur ces problèmes dans la société.
Peut-être qu'il l'a sauvé d'une dépression profonde.
Très probablement. En tout cas, il a. C'est un peu le chien dans le jeu de quilles. À un moment, il a tout reconfiguré.
Oui. Ah oui, il y a un désordre hein, qui risque de s'installer.
Il y a un désordre. Bien,
et lui, il est partagé, il me semble, que je l'ai compris comme ça, entre l'émerveillement, en fait, il est séduit par cette femme, mais en même temps, ce sentiment de précarité.
Oui, lui, il est séduit en même temps. Il n'en revient pas vraiment. Enfin bon,
Et puis il n'y croit pas trop quand même, non ?
Lui, il n'y croit pas trop, oui. Mais en même temps, il sent bien quand il se retrouve. Et il y a un moment, l'un et l'autre se consolent.
Oui, c'est ça.
Simplement
oui.
En touchant l'autre, en se touchant déjà simplement. Oui. C'est pas grand chose, mais c'est énorme. Ça. Parfois, quand vous n'allez pas bien, quelqu'un vous touche la main, vous prend la main, ça agit. Ils en sont un peu là, quand même, dans cette forme de réconfort mutuel.
Il y a un passage là, que j'aurais aimé qu'on le lise. Je ne sais pas si on aura le temps de le lire intégralement. Vous voulez le lire ? Peut-être, on peut. Vous voulez le lire ?
Comme vous voulez.
C'est en bas de la page 229, au moins face à cet homme, elle se sentait hors de ses questions, hors de sa vie.
Au moins face à cet homme, elle se sentait hors de ses questions, hors de sa vie, à lui. À lui, elle pouvait tout lui dire. Et miracle, il écoutait. Aux autres, elle n'arrivait plus à parler. Elle n'arrivait plus à s'ouvrir sur ses difficultés. Parce que c'était en ajouté au leur. Alors que lui semblait inébranlable, absolument pas influençable, un genre de rempart, de mur porteur. Lui, il pouvait tout endurer, tout entendre. Ce que cet homme lui offrait par-dessus tout, c'était son écoute. Il l'écoutait sans la juger, il la devinait même. D'ailleurs, ça l'intriguait. Ça l'intriguait qu'il n'attende rien d'elle. Il paraissait être là pour l'aider bien plus que pour l'aimer. Mais était-ce possible qu'un amour soit essentiellement dédié à cela ? À aider l'autre ? Et aider l'autre, est-ce déjà l'aimer ? surtout lorsque ça ne marche que dans un seul sens. Il faisait ça, oui, mais pourquoi ? Ludovic, je peux te poser une question ?
Oui.
Je suis quoi pour toi ?
Aurore, j'aimerais bien le savoir.
Non. Réponds-moi mieux que ça. Dis-moi ce que je représente pour toi.
Eh bien,
quelque chose que je n'avais pas prévu.
Quelque chose ?
Non, Aurore, je ne sais pas répondre à cette question. Ce que tu représentes pour moi, c'est...
Il coupa net sa phrase, préoccupé par la peur de trop en dire, de trop se livrer. Ce qu'il ressentait pour elle, il le gardait. Il n'avouerait rien de cette envie qu'il avait de l'entourer, de l'embrasser, ni de son odeur qu'il avait en permanence en tête. Ce parfum d'elle qui lui revenait par intermittence, qu'il visitait quand elle n'était pas là. Il n'est pas explicable ce besoin qui vient parfois de sentir l'autre, ne serait-ce que son parfum, ce désir de l'avoir tout près, de soi, de le respirer.
Voilà de très beaux passages sur cet attachement que lui découvre. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que vous montrez aussi les fluctuations, les mouvements du cœur et de l'âme, parce que tout n'est pas rose, même pour lui. À certains moments, alors on va pas parler de l'histoire parce qu'ils vont être entraînés dans une histoire liée à l'entreprise d'Aurore. Et lui va la suivre pour la protéger en définitive. Il fait ça pour la protéger. Et à un moment donné, il découvre qu'elle ment assez facilement, pas à lui forcément, qu'elle est inconséquente à certains moments, manipulatrice peut-être, il s'interroge, il lui en veut, il est irrité, mais il est toujours séduit.
Oui, enfin, ce qu'il découvre surtout, c'est que c'est elle qui est manipulée et qui est un peu dépassée par ses associés. Et ça, il s'en rend compte. Et à partir de là, de la même façon qu'il intervient pour les autres, il va accepter
de se sacrifier. Enfin, on ne raconte pas. Mais on se rend compte quand même qu'à un moment donné, il y a l'histoire sur le lac gelé où elle l'entraîne un peu sottement quand même. Elle est, il se pose des questions. Il trouve que lui est quand même sérieux. Il est posé. Il est plus sage. Et elle veut avoir un moment de liberté où elle oublie tout. C'est ça.
Elle a une envie un peu gamine, à un moment, ils sont là, sur ce lac, c'est la première neige, c'est la première fois qu'il fait vraiment froid, ce lac est gelé, c'est tentant un lac gelé, ça donne envie d'aller y faire quelques pas de patinage comme ça, juste au bord, enfin oui c'est...
Oui, tout d'un coup elle a envie d'être...
Elle est reprise par une forme d'émotion gamine, oui, parce qu'elle se sent auprès de cet homme comme en sécurité, donc elle a envie de jouer, elle a envie de...
Alors, on va pas raconter la suite de l'histoire, ça serait, je crois, faire du tort à nos lecteurs, pour le coup. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé aussi l'alternance des personnages qui, à tour de rôle, parlent de ce qu'ils éprouvent, de du comportement de l'autre également. Et vous n'excluez pas les résistances, les doutes, les refus et même les renoncements. Pour nous, lecteurs et je dirais même spectateurs, leur rencontre, c'est une rencontre très vraie et très émouvante. Voilà, un grand merci Serge Joncourt. Alors, je rappelle à nos auditeurs que le titre de votre ouvrage, c'est « Repose-toi sur moi ». Bon, j'espère que les féministes ne vous ont pas fait d'histoire pour ce titre. Aux éditions Flammarion. Au revoir.
Au revoir.